De la cuisine cette fois-ci. Alors, il y a eu beaucoup de débats sur l'arrivée des réfugiés, sur l'arrivée des migrants en Europe. On oublie souvent que ce sont des personnes qui ont des compétences et un savoir-faire. C'est de là qu'est née l'idée du Refugee Food Festival.
Ce qui est le début de tout, c'est en mangeant.
Le réchaud, c'est un projet solidaire qui a pour vecteur et pour énergie la création du lien entre les hommes à travers la cuisine.
On prétend ramener de la vie sur la survie.
On vit ensemble.
On vit ensemble et là en plus on mange.
Une fois que tu n'as pas pu être poli à manger, tu ne peux plus être poli dans la vie.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau d'On va déguster. Et si la cuisine était beaucoup plus que du plaisir? Et si la cuisine était un outil d'intégration, à l'attention en particulier des réfugiés, exilés, chercheurs d'asile que nous accueillons sur notre territoire? Nous allons vous raconter aujourd'hui, en paroles et en recettes, le destin d'hommes et de femmes originaires de Syrie, du Soudan, d'Afghanistan, de Géorgie, du Mali, qui ont fui la guerre, la persécution ou la misère, qui ont obtenu en France le statut de réfugiés et qui se font une place dans notre société grâce à la cuisine et les métiers de la restauration. Pour parler de ces expériences menées avec succès à Paris mais aussi en région, deux jeunes femmes de poigne à la tête de projets solidaires qui intègrent, réparent, restaurent de nombreux réfugiés grâce à la cuisine. Vanessa Krissev, bonjour.
Bonjour François-Régis.
Comédienne, cuisinière de formation, et on va le voir aussi cuisinière d'ailleurs tout le temps puisque nous vous avez apporté de très belles choses à manger, et fondatrice du Réchaud, R-E-C-H-O, car c'est un acronyme.
Pour Refuge, Chaleur, Optimisme.
Absolument, et c'est une association qui cherche à développer le vivre ensemble grâce à la cuisine. Vous avez créé aussi la Table du Réchaud, le restaurant installé dans le centre d'hébergement Les Cinq Toits. On est au cœur du 16e arrondissement de Paris, à deux pas de la Maison de la Radio. Des réfugiés derrière les fourneaux, des gourmets parisiens à table. Vous allez nous raconter cette aventure. Marine Mandrila, bonjour.
Bonjour à tous.
Mandrila. Excusez-moi, je ne veux pas écorcher votre nom. Vous avez cofondé avec votre compagnon Louis Martin le Refugee Food Festival, une association qui vient en aide à des populations déracinées à travers de nombreuses initiatives que vous allez nous raconter. Vous êtes même à l'origine de la Résidence, un restaurant qui fait parler de lui sur la scène food parisienne. C'est au cœur de la halle culturelle Ground Control à Paris et dont les chefs sont des réfugiés.
Absolument, on va en parler.
Nous sommes justement allés à la rencontre de celui qui fut pendant 6 mois le chef de ce restaurant, Aïssam Karachet, un homme syrien qui a fui Damas et qui est devenu chef cuisinier en France grâce à vous. Vous pourrez découvrir notre reportage dans le courant de cette émission. Dans les fauteuils des chroniqueurs aujourd'hui, d'abord celle qui suit de très près ces initiatives solidaires et qui les évoque régulièrement à ce micro, c'est Elvira Masson, bonjour.
Bonjour à tous.
Ça va Elvie?
Ça va très bien. Alors moi je vous raconte pas une histoire d'exil aujourd'hui, on va aller à la rencontre de la reine des pickles en Inde. C'est une belle histoire quand même.
Ah ouais, et c'est une très belle histoire avec un bouquin hors
incroyable.
Norme, absolument incroyable. Et une petite recette à la clé.
Ouais, j'ai essayé.
Ça va croquer et on va même jouer des notes acidulées grâce à vous. Et puis également, notre compagnie, notre chroniqueur vin du jour, c'est Antoine Gerbel. Bonjour Antoine.
Bonjour. Pour ma chronique, je vais vous parler des migrants qui seraient peut-être une réponse face à cette pénurie récurrente de main-d'œuvre dans la viticulture française.
Absolument, les réfugiés dans les vignes. Et si vous avez des questions, mais également des initiatives à nous signer, il y a les deux options, un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou le bouton intervenir sur l'application mobile de France Inter. Derrière la console aujourd'hui pour cuisiner en direct cette émission, Laurent Thomas, Guillaume Roux, Nadia Chougui. Et pour toutes les infos et les recettes de l'émission, rendez-vous sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Et on commence avec un coup de cœur étroitement lié à notre sujet du jour. Et ce coup de cœur, bon, on va carrément dire que c'est une partie de plaisir. Grâce à une recette, mais alors une recette un peu particulière, une recette symbole qui montre que la cuisine peut revêtir à la fois une dimension sociale, politique, mais aussi, bien entendu, épicurienne. Vanessa Krissev, qu'est-ce que vous nous avez préparé?
Ben, pour démarrer en douceur, c'est un peu la signature du réchaud. À la base, c'est un gâteau à la carotte, un carrot cake. Un gâteau à la carotte. Qui, en fait, se décline au fil des saisons avec les légumes de saison, puisqu'il y a en effet une dimension très écologique dans notre cuisine. Et donc là, aujourd'hui, c'est avec de la courge.
Voilà, c'est bon.
C'est bon.
Alors, on l'avait jamais goûté avant, on s'est dit, on va prendre le pari de lancer cette recette dès le début de l'émission.
Parce que Vanessa nous avait promis une recette un peu addictive. Ouais. Ben, pari gagné. Hein. C'est dingue.
C'est dense, c'est moelleux, c'est doux.
C'est dense, mais en même temps, c'est très moelleux. Il y a pas mal de beurre, j'imagine.
Et ben non.
Combien ?
Comment ça ?
Il y a de la matière grasse. Mais c'est combien ?
Donc en plus, vous nous parlez même d'une recette végétalienne ?
Non, parce qu'il y a des œufs.
Ah oui, il y a des œufs quand même.
Mais c'est, oui, c'est de l'huile qui vient remplacer le beurre. Après, okay. Il faut utiliser des bons produits, une bonne huile et ça fait un bon résultat.
Quelle huile ?
Là, j'ai utilisé l'huile de tournesol. On peut éventuellement utiliser l'huile de colza à condition qu'elle soit pas trop forte.
On part du principe qu'on récupère vraiment toute la sucrosité, le sucre de la courge. C'est le cas également avec la carotte dans le carotte cake. Mais on pourrait, au fil de l'année, utiliser différents légumes pourvu qu'ils soient assez sucrés. Et c'est aussi une façon de sucrer naturellement, finalement, ces gâteaux et de désucrer, de mettre un peu moins de sucre en poudre.
Oui, et surtout du sucre. Alors, je déteste le goût du sucre blanc. Donc là, on n'est que sur des ingrédients bruts et bio. Et on est sur un sucre, un mélange entre du sucre muscovados ou rapadura et un sucre de canne.
C'est ça. Là, vous évoquez vraiment, effectivement, des sucres intégraux, des sucres assez, assez naturels, complets, en quelque sorte. Marine Mandrila, vous validez cette recette ou pas ?
Je valide et le petit croquant est parfait.
Et ce petit croquant est apporté, effectivement, par des noisettes.
Alors, il y a de la noisette et puis il y a une petite croûte assez fine de sucre. Et
un glaçage au sucre, hyper bon.
Facile à faire ou pas ?
Très facile à faire.
Les étapes, mais vraiment en un mot, sachant que nos auditeurs, évidemment, peuvent retrouver la recette en ligne sur franceinter.fr à la page « On va déguster ».
Comme un peu tous les gâteaux américains, d'origine américaine, c'est la matière sèche d'un côté, le liquide de l'autre. On mélange grossièrement. Faut pas trop mélanger parce que sinon on crée de l'élasticité à cause du gluten de la farine. Et on met à cuire à 180 degrés. Et une fois que c'est cuit, il y a une petite astuce, c'est qu'il faut emballer le gâteau pour que toute l'humidité reste à l'intérieur quand il est encore chaud. Il refroidit emballé. Et ensuite, on s'occupe du glaçage et éventuellement de l'accompagnement. Là, c'est une crème crue d'un petit fermier d'Île-de-France.
Et la courge est cuite avant, évidemment, d'intégrer l'appareil ?
Non.
Ah non ?
Non. C'est juste râpé.
Et c'est râpé. Et c'est quelle variété de courge ?
Là, j'ai utilisé du potimarron, mais on peut utiliser vraiment tout ce qu'on veut. Et c'est un gâteau qu'on fait aussi avec de la betterave, qu'on peut remplacer. Là, il y a des raisins et des noisettes. On peut remplacer avec des pépites de chocolat. Enfin, c'est vraiment une manière de faire manger des légumes aux enfants.
Cette recette est incroyable. Vraiment, je lui prédis un très très beau succès auprès de ceux qui nous écoutent. Et cette recette est une espèce de porte-bonheur finalement, puisque vous la préparez, vous la faites, vous la cuisinez depuis le début de l'aventure du réchaud, racontez-nous.
Voilà, donc le réchaud est né en 2016 avec une mission sur le camp de Grande-Synthe. Donc Grande-Synthe, c'était à l'époque le seul camp aux normes en France.
On est près de Dunkerque dans le département du Nord.
C'est ça. Et on avait identifié ce lieu comme étant un lieu qui pouvait nous accueillir pour animer ces ateliers de cuisine collaborative qui sont un peu la signature du projet. Et donc l'après-midi, on montait des grands ateliers de cuisine et le matin, par contre, on venait avec un déjeuner à offrir. Et donc, les garçons sur le camp et les femmes étaient particulièrement friands de la pâtisserie. Et moi, je viens de la pâtisserie à la base. Et on apportait des desserts frais pâtissiers qui n'avaient pas du tout ce qu'il n'y a pas du tout, en fait, sur ces lieux particuliers. Et le carrot cake avait été un des premiers desserts qu'on a fait et avait absolument emballé tout le monde.
Et dégusté justement par des populations de quelles origines ? Notamment d'origines de pays où on a de vraies traditions sucrées et où on aime le sucre ?
C'était essentiellement des personnes d'origine kurde, irakienne.
D'accord. Et votre gâteau a fait des ravages ?
Le gâteau a beaucoup plu.
Dans le sens positif du terme, évidemment. Et puis ensuite, le réchaud, on va discuter évidemment autour de la suite de l'aventure du réchaud, puisqu'il y a eu jusqu'à Paris une pause également à Arras en 2018. Mmh.
Arras en 2018, où on a monté avec toute la population arrageoise un restaurant éphémère solidaire où réfugiés accueillis sur la ville et locaux cuisinaient ensemble chaque jour, accompagnés par des ambassadeurs du projet, avec des grands chefs engagés, 200 repas qui étaient mis en vente à prix libre. Et donc, c'était un vrai lieu de partage, de convivialité, de mixité sociale.
C'était un vrai challenge, non ? Vous l'aviez monté super rapidement, le restaurant, il me semble.
Oui, c'est un projet qui a mis un an et demi à voir le jour. On aurait dû passer 18 mois vraiment à le monter, et ça s'est fait en 8 mois.
On va de toute façon discuter, évidemment, c'est le but de cette émission, de vos aventures solidaires. Vanessa Krisev avec le réchaud et Marine Mandrila avec le Refugee Food Festival, on va même le dire avec un accent tout simplement français, et le restaurant La Résidence à Paris. Et on va voir que c'est des projets gagnants qui réussissent à intégrer des réfugiés. On va s'entendre d'ailleurs un peu sur les définitions réfugiés, migrants, juste après, Dame, C'est un groupe de rap palestinien avec le titre Emta Naizak Yama, sans garantie de prononciation. Une chanson qui raconte le mariage entre un Palestinien et une Israélienne. Faites la cuisine, pas la guerre, sur France Inter. Quand on quitte un pays, la cuisine est peut-être la chose la plus facile à transporter. Quand les produits sont à peu près disponibles, les recettes font partie de ces rares souvenirs qui peuvent reprendre vie, redevenir tangibles grâce à une odeur ou à un goût venu de l'enfance. Alors ce qu'on a laissé derrière soi surgit soudain. C'est un court extrait d'un livre dont je vous recommande la lecture, La cuisine de l'exil, peut-être en avez-vous entendu parler, signé par Stéphanie Schwarzbrod aux éditions Actes Sud. Et ce livre raconte le destin de Russes, de Polonais, Brésiliens, Vietnamiens, Algériens qui ont quitté leur pays pour fuir la dictature ou la misère et qui ont posé leurs valises en France. Et ces témoignages montrent que c'est bien souvent par la cuisine que ces déracinés renouent avec leur passé, leurs souvenirs, avec aussi leur dignité. Marine Mandrila et Vanessa Crisset, vous le constatez dans le quotidien de vos associations respectives, la cuisine, c'est un peu une des seules choses qui restent quand on a tout quitté, Marine?
C'est effectivement l'une des seules choses, les premières choses qu'on refait dans le pays dans lequel on arrive. Et c'est la chose à la fois la plus universelle, parce qu'on mange tous trois fois par jour, du moins on a tous besoin, et en même temps la plus intime, qui nous ramène à notre enfance, à notre pays, et qui est une tellement belle manière de se raconter, de raconter son village, la cuisine de sa maman, de ses ancêtres, et qui nous ramène vraiment au plus profond de ce qu'on est, de son identité, et qui est le plus partageable. Et c'est ce qu'on essaye de faire, et qui permet effectivement de une meilleure connaissance mutuelle, une meilleure connaissance de ces pays, de raconter que la Syrie, la Géorgie, la Tchétchénie, ce ne sont pas que des pays difficiles en conflit, mais c'est avant tout des patrimoines culinaires, des patrimoines culturels qu'il faut valoriser, qu'il faut préserver, qu'il faut sauvegarder, et qu'il faut mettre en valeur dans notre pays.
Donc la cuisine, pour vous, c'était vraiment le vecteur, le moyen de partager et d'échanger qui s'imposait au début de votre projet du Refugee Food Festival.
Absolument, et nous on est parti avant de monter le Refugee Food Festival, on a traversé 18 pays en allant cuisiner et manger chez l'habitant, chez toutes
nous,
les personnes qu'on rencontrait.
Nous, c'est vous et Louis Martin,
absolument,
votre compagnon.
Absolument, mon compagnon. Vraiment sur la studio. Autour de la cuisine quotidienne, la cuisine populaire, pas du tout la gastronomie. Et c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte que la cuisine était à la fois permettait de rassembler, de se rassembler autour de la table, tous ensemble, de fédérer, de connaître, de se comprendre, des gens qui ne se comprennent pas, qui parlent pas forcément la même langue, et que c'était un véritable levier d'insertion. Et quand on est rentré en France, en fait, à l'été 2015, on va dire, quand on a vraiment commencé à parler de l'arrivée de personnes réfugiées en France et en Europe, on a souhaité, nous, de par aussi nos histoires personnelles, se mobiliser, s'engager, engager la scène culinaire dans un premier temps parisienne pour accueillir ces populations en détresse et leur permettre de leur donner une voix au travers de leur cuisine, et puis peut-être un petit peu rendre aussi de toute l'hospitalité et toute la chaleur qu'on avait reçue dans tous ces pays, de toutes ces femmes et ces hommes qui nous ont ouvert leur cœur, leur foyer, leur cuisine pour nous faire partager un petit bout d'eux.
Vous avez donc entamé votre aventure au cœur, entre guillemets, de ce que l'on a appelé médiatiquement la crise des réfugiés. Et pour cause, l'Union européenne et la France ont fait face, il y a quelques années, à un flux de réfugiés sans précédent, de par les conflits proches de l'Europe. Vous l'avez fait aussi, ce projet, visiblement, pour prendre un peu le contre-pied d'un certain discours misérabiliste à l'égard des réfugiés. C'est-à-dire que les réfugiés peuvent s'intégrer, ils peuvent aussi se prendre en main grâce à vous, ils peuvent s'intégrer, s'assimiler grâce, notamment, et on va le voir, à l'opportunité culinaire que vous leur proposez.
Effectivement, l'idée c'était aussi, nous on a été profondément, comme beaucoup de gens, marqués par le traitement global extrêmement anxiogène qui pouvait être fait de l'arrivée de ces personnes-là, qui nous amène tout simplement à oublier que c'est juste des personnes comme vous et moi, qui ont des talents, qui ont des métiers, qui avaient une vie, qui n'ont pas choisi, on ne choisit pas en fait à un moment par plaisir de prendre un bateau et avec ses enfants et de traverser la Méditerranée, et qu'on cherche surtout à sauver sa vie, et qu'on pourra tous être réfugiés un jour. Ces personnes-là ont besoin d'être accueillies, ont besoin d'être valorisées. Et en fait, c'était vraiment à la base une manière pour nous de valoriser et de reconsidérer en fait un petit peu ces personnes-là et de montrer que la cuisine c'est aussi avant tout une histoire de migration et que tous ces patrimoines, ces cultures, ces cuisines viennent aussi enrichir notre propre culture et que c'est aussi une chance.
Alors entendons-nous un peu sur les mots parce que ça grince un peu des dents sur nos mails et sur les réseaux sociaux, peut-être avec vous, Vanessa, on entend depuis le début de cette émission, réfugiés, migrants, demandeurs d'asile, on ne sait pas toujours ce que ces mots recouvrent juridiquement, administrativement, parfois même aussi un peu médiatiquement. Vous venez en aide notamment avec le réchaud, hein, vous êtes dans des projets, on va pas dire similaires, mais en tout cas tout à fait complémentaires avec qui véhiculent, on va dire, les mêmes valeurs. Qu'est-ce qu'il faut choisir comme mot? Vous travaillez avec des réfugiés.
Alors, administrativement parlant, on parle de réfugiés à partir du moment où les personnes exilées ont obtenu leur statut.
Donc leur statut, en l'occurrence, c'est une carte de séjour.
10 ans oui. De réfugié, de statut de réfugié. Et donc, en fait, légalement, on a le droit de faire travailler des personnes qui sont réfugiées. Et donc, au Refugee Food Festival comme au Réchaud, on a une partie insertion professionnelle et c'est avec ces personnes-là qu'on peut travailler. Sur le plan plus personnel, il y a un terme, moi, que je n'aime pas, c'est le terme migrant, qui est un terme qu'on entend beaucoup dans les médias et qui est très anxiogène et qui n'est pas du tout humaniste, je trouve. Et on préfère le terme exilés ou chercheurs de refuge, mais ça c'est très subjectif.
Migrant, c'est effectivement, c'est un mot assez connoté, très chargé hein, quand même médiatiquement. C'est surtout l'effet que les migrants désigneraient un peu une masse de gens,
une masse compacte de
déshumanisés finalement.
Tout à fait. Et il faut rappeler que ça n'a pas d'existence juridique. Le terme migrant, au final, n'a pas d'existence et ne correspond pas à une réalité juridique.
C'est un mot médiatique.
Absolument.
Donc réfugié, on est d'accord sur le plan juridique, puisque vous faites travailler, vous formez et vous faites travailler pour des périodes variables, on va le voir, des gens qui effectivement sont autorisés légalement à travailler dans notre pays, au moins pour 10 ans, pour s'intégrer.
Et qui ont donc obtenu de l'État français, en l'occurrence, la protection et la reconnaissance de leur qualité de réfugié au titre de persécution qu'ils ont subi ou qu'ils ont pu craindre de de subir pour des raisons d'orientation sexuelle, d'orientation politique, d'appartenance à un groupe ethnique, etc. Après, juste pour compléter, on peut parler aussi de demandeurs d'asile, qui sont des personnes qui demandent l'asile à l'État français, c'est-à-dire qui demandent la protection au même titre, et qui sont en attente de la réponse, entre guillemets, de l'État français, et qui, pendant cette période-là, peuvent absolument rester en France, qui n'ont en revanche pas le droit de travailler, et qui voilà, sont en attente d'obtenir ou non malheureusement leur statut.
Quelles sont les principales nationalités auxquelles vous êtes confrontés, avec lesquelles vous échangez, que vous essayez d'intégrer, Marine Mandrila, dans Refugee Food Festival et votre restaurant, la résidence Paris 12e ?
Alors, depuis le début du projet en 2016, on a travaillé avec 49 nationalités, majoritairement syrienne, afghane, éthiopienne, érythréenne, irakienne, géorgienne, tchétchène, voilà, beaucoup de nationalités, mais majoritairement, je dirais, syrienne et afghane.
Vanessa Krissev, au réchaud.
Alors, soudanais, érythrée, afghane et irakienne par le passé.
Par le passé. On va se rendre compte à quel point aussi cet accueil est aussi une opportunité magnifique pour faire des découvertes culinaires avec des recettes dont on connaît parfois pas l'existence. On va justement vous en expliquer quelques-unes. Je vous propose à présent de découvrir le destin de quelqu'un qui a travaillé dans l'association Refugee Food Festival, que vous connaissez bien, Marine Mandrila. C'est même vous qui nous avez mis sur sa voie. Il s'appelle Aïssam Karachet. Je prononce bien ou pas?
C'est bien ça.
Aïssam Karachet, il est syrien et notre reporter Pauline Boulet est allée le rencontrer à la résidence, votre restaurant parisien, dont il fut le chef pendant 6 mois jusqu'à décembre dernier. Vous allez voir que la cuisine est devenue pour lui une passion, une consolation et un métier.
La cuisine, comme la musique, c'est une façon de communiquer sans apprendre la langue. N'importe quoi. Quelle personne, si il goûte, ah, vous venez de quel pays, et après ça, ça ouvre la porte pour communiquer.
Est-ce que tu peux me raconter d'où tu viens et quel a été ton parcours jusqu'en France?
Donc, je m'appelle Aïssam Karachet, je viens de la Syrie, j'ai 39 ans et je suis réfugié politique en France depuis 5 ans presque. Avant ça, j'ai travaillé dans une télévision pour les enfants au Moyen-Orient. J'ai quitté mon pays à cause de la guerre et ici en France, j'ai décidé de faire de la cuisine. Donc là, j'ai suivi une formation qui s'appelle Cuisine Mode Emploi de chef Terry Marx. J'ai fait mon stage dans un resto qui s'appelle La Régalade Saint-Honoré de chef Bruno Doucet. Après le stage, j'étais embauché et j'ai travaillé là-bas pendant 1 an.
Est-ce que c'est ta première expérience ici en tant que chef de cuisine?
Oui, c'est ça. J'ai participé dans le festival de Refugee Food Festival 2 fois. Il m'a proposé d'être le chef en résidence pour 6 mois. Et là, vraiment, c'était top pour moi.
Qu'est-ce que c'est le prochain défi pour toi?
Alors, une service traiteur. Et en parallèle, je suis toujours en recherche de trouver un local pour faire un petit resto. J'ai pensé de faire la cuisine franco-syrienne parce que j'aime bien la créativité, inventer des choses qui n'existent pas ou existent dans un cadre limite. Et je crois que ça intéresse les gens d'essayer aussi.
Et pour réussir à faire ça, je crois savoir que tu as 2 carnets magiques.
D'abord, j'ai le carnet de ma mère. Quand je suis arrivé en France, j'ai commencé à manger pizza, des burgers, les choses qui existent déjà. Et là, j'en ai marre. Et même, il faut vraiment cuisiner chez moi pour garder l'argent. C'est pas chaque jour, si je sors et je mange comme ça, c'est pas bon. Donc là, je commençais à appeler ma mère qui était à l'époque à Damas. Et je disais, maman, comment faire ça? Donne-moi les plus simples recettes, je ne sais pas. Et après, ici en France, toujours, je continue mon habitude de regarder le YouTube, lire beaucoup, toujours sur le côté de la cuisine française ou la cuisine du monde.
Qu'est-ce qui est au menu?
Alors, aujourd'hui, on va faire 2 choses très simples. Donc là, on va faire du hummus revisité avec le potiron, première chose. Deuxième chose, on va faire une recette classique syrienne de la ville d'Alep. Ça s'appelle la soupe de lentilles corail d'Alep. J'ai préparé les ingrédients. Normalement, c'est le pois chiche. C'est trempé dans l'eau le veille. Et après, on fait cuire. On a aussi le jus de citron frais. On a un petit peu d'ail, tahini, de sel, un petit peu de cumin, Aussi, j'ai fait cuire le potiron dans le four.
Est-ce qu'on peut le faire avec autre chose que du potiron?
Franchement, le hummus, c'est une recette tellement flexible. N'importe quel légume de la saison, c'est pas mal d'essayer.
3 belles cuillères de yaourt grec qu'on ajoute à ce mélange.
Maintenant, deuxième recette, soupe de lentilles corail.
Alors, comment tu l'appelles en arabe?
Shorbet adas mejlouch.
Shorbet adas mejlouch.
Très bien. Donc, j'ai déjà préparé demi-carottes, aussi rondelles de poireaux, oignons blancs, avec huile d'olive. Un petit peu de tomates séchées. On a le piment fort et le cumin. J'ai déjà le lentille corail. Et là, je mets au-dessous pour nacrer un petit peu. Après, à côté, j'ai préparé un petit brouillon des légumes. Et on laisse cuire pour 20 minutes. En parallèle, on va le faire infuser un petit peu d'huile d'olive avec l'ail. On va ajouter du jus de citron frais.
Ces recettes, qu'est-ce qu'elles évoquent?
Alors, la recette de lentilles corail, ça me rappelle les jours de mon enfance, à la maison, avec ma mère. Pour le hummus, quand c'est revisité, ça m'a donné d'autres types de sentiments. C'est ok, là c'est quelque chose de classique, et maintenant moi je suis libre de jouer avec, et waouh, c'est peut-être si je fais goûter à quelqu'un, peut-être il va dire c'est quoi ça, c'est pas le hummus, ça c'est juste le nom. Mais ça m'a fait rigoler, mais en même temps vraiment c'est très intéressant pour moi.
Et voilà, le houmous de potimarron et la soupe de lentilles d'Alep signée.
Ah non, Marie n'était plus du tout.
Marie n'était plus du tout avec nous en train de manger du houmous, peut-être. Car vous nous l'avez apporté. Comme par miracle, ce houmous, il était libre en ce dimanche matin. Bah, il est venu faire un petit tour dans le studio dont on va déguster. Il est furieusement bon. On essaie parfois de faire du houmous à la maison. C'est souvent un peu raté, quand même.
Ah bon? Pourquoi?
Non,
mais trop de citron.
Moi, je m'en sors à peu près, mais de manière générale.
En toute modestie.
Non, mais parce que j'essaie de le pratiquer à peu près régulièrement. Mais c'est incroyable. D'abord, la couleur, évidemment, un peu orange, corail.
En fait, le houmous, quand il est classiquement fait au pois chiche, il peut devenir un peu âcre parfois. Parce qu'on met trop d'huile ou parce qu'on dose mal le tahine, la purée de sésame. Et là, en fait, le potiron vient vraiment adoucir et arrondir.
Exactement.
Mais c'est vraiment une base de houmous classique. C'est du pois chiche, du tahine, un petit peu d'ail, de l'huile d'olive. Et après, c'est twisté avec du potiron. Il ajoute, c'est marrant, 50 grammes de yaourt grec. Ce qui vient encore une fois arrondir,
assouplir un peu plus. Mousse.
C'est vraiment, c'est une caresse, quoi.
Délicieux. Comment il a pu en arriver aussi en 3 ans en France à ce niveau de français? Au-delà de son projet culinaire, puisque vous l'avez vraiment entraîné sur cette voie, c'est grâce à vous justement qu'il se fait une place, mais son français.
En fait, il a commencé vraiment, il parlait pas un mot de français avant d'arriver, il parlait bien anglais, et il a vraiment commencé par ça. Il a travaillé avec plusieurs associations, Infléchir, Causon, et il a travaillé d'arrache-pied pendant un an pour atteindre ce niveau de français. Il continue à se perfectionner, etc. Ensuite, il a fait sa formation effectivement à cuisine mode d'emploi, puis chez Bruno Doucet, où il a affiné un petit peu son projet culinaire, et il est arrivé vraiment avec nous. On a essayé de lui offrir aussi un tremplin, la confiance nécessaire pour développer ses recettes, sa créativité, et se faire confiance avant de se lancer bientôt dans sa propre aventure.
Il cherche d'ailleurs, avis à tous, il cherche d'ailleurs un local
pour
son
Paris,
activité de traiteur où il va faire des plats franco-syriens. Là, on va pas parler de réconciliation parce qu'on n'est pas forcément fâché, mais en tout cas, il y a ce jumelage franco-syrien au sein justement de son association. Antoine, vous aviez un truc à nous dire?
À propos de l'houmous, délicieux.
Ah, délicieux.
Délicieux. Et quand c'est la saison, essayez le poivron.
Oui.
Parce que ça donne aussi de la couleur et ça donne aussi un goût comme le potiron.
Dans son beau français, comme dit Aïssam, le houmous est une recette versatile. Que deviennent les gens que vous côtoyez dans vos différents projets, Vanessa, Krisev? Est-ce qu'ils sont là pour une étape dans leur parcours, ou est-ce que la cuisine peut devenir une vocation? Est-ce que vous voyez des gens justement se lancer
Ça dépend vraiment des lieux, en fait. Au départ, le projet, c'était de l'intégration sociale avant d'être de l'insertion professionnelle. Mais on s'était dit, on va tisser un collectif, un lien avec un réseau qui fera que si certaines personnes, parmi celles qu'on rencontre, souhaitent rester en France et s'intégrer grâce à la cuisine, on pourra les orienter. Ce qui s'est passé dès le début avec un jeune kurde irakien qui, grâce à un de nos ambassadeurs, Akram Benalal, a pu travailler...
Vous évoquez un chef parisien.
Oui, a pu travailler chez lui pendant deux ans et demi et a fini par aussi passer en salle. Et pareil, la salle, en fait, en termes de progression de la langue française, a été très importante pour lui. Et puis, on a des chefs ambassadeurs, qu'on retrouve aussi avec le Refugee Food Festival, mais qui sont un collectif de chefs engagés comme Olivier Rollinger, comme Michel Troisgros et César, Florent Laden depuis le départ dans le
chef
Nord.
Chef du Nord, chef formidable.
Sonia Esgulian dans le Sud.
Là, vous évoquez la cuisinière lyonnaise qu'on aime beaucoup aussi.
Alessandra Montagne aussi, Manon Fleury.
La chef de Tempero, Manon donc, Fleury, on ne sait plus trop où elle est en ce moment parce qu'elle a quitté...
Mermoz,
merci. Mais en tout cas, on la reverra bientôt réapparaître sur la scène parisienne, absolument. Donc il y a un élan aussi de solidarité dans les chefs, effectivement, de la scène parisienne et en région. On va voir qu'il se passe plein de choses. On nous signale énormément d'initiatives d'ailleurs également en région. Et puis on va discuter aussi de l'émergence de la table du réchaud dans peut-être bien ce qu'on pourrait appeler l'arrondissement le plus huppé de Paris, le 16e. Et on va voir qu'il y a une cohabitation formidable au cœur du 16e arrondissement entre les habitants et votre beau projet, Vanessa. On en parle dans un instant, mais tout de suite, on fait une petite pause liquide avec notre ami Antoine Gerbel.
On va déguster sur France Inter.
Antoine.
Alors, le sujet qu'on l'a évoqué ensemble, je dis, c'est un très beau sujet pour parler aussi actuellement d'un problème qui est... on essaye de le résoudre depuis des années, c'est la pénurie de main-d'œuvre dans la viticulture. D'une manière générale, dans les métiers agricoles, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Alors, généralement, liée à des saisons. On appelle ça les saisonniers. On a besoin de personnel dans les vignes, notamment pour tailler, pour relever les bois, comme on dit. Au moment, juste avant les vendanges, on a besoin des feuillets, enlever les feuilles pour que les raisins mûrissent mieux. Donc, ce sont des petits boulots. Mais en fin de compte, il y a toute l'année du travail dans la viticulture et surtout dans une viticulture bio et biodynamique qui en ce moment est un boom incroyable.
Et qui demande beaucoup d'efforts manuels.
Le week-end dernier, s'est tenu là au congrès des vignerons biodynamistes d'Emeter et ils ont tous était en train de demander à chacun, t'as pas un ouvrier viticole, t'as pas un tractoriste, ils me sont manque tous de personnel. J'ai cherché un petit peu, je me suis dit, donc forcément, il doit y avoir des formations à peu près partout, pour intégrer un public récent, on parle donc de réfugiés, de migrants, enfin bon, la terminologie qu'on veut, et en fin de compte, j'ai trouvé très peu de choses. J'ai trouvé une très belle action, ce qui se passe à Amboise, en Touraine, au lycée viticole d'Amboise, où depuis 3 ans, c'est la 3e année, à peu près 8 ou 9 migrants, principalement des Soudanais, Afghans, érythréens aussi, on retrouve à peu près les mêmes origines, sont formés pendant 4 mois au lycée. Alors formés, c'est déjà les béabas de l'écriture, la compréhension, des choses très simples. Et puis après, bien évidemment, on va dans la vigne, on va chez les vignerons. Et j'ai regardé un peu la liste des vignerons et j'ai dit, mais c'est génial, parce que c'est pas, on va dire, des gens qui font le métier à moitié. Il y a Jackie Blot.
Ah oui.
Thierry Puzelin, le domaine des Grandes Espérances, il y a Damien de Lechenoux aujourd'hui. Donc en gros, je suis en train de vous citer un peu la crème de ces vignerons autour de Mont-Louis en Boise. Et donc je les ai appelés et leur tous ont été super enthousiastes. On a des gars qui sont volontaires, on a des gars qui sont d'abord des paysans, surtout les Soudanais ou les Afghans, ils viennent de la campagne. Leur métier, c'est d'être dehors et d'être dehors par tout temps. Alors on me dit, même si en France, c'est pas toujours les mêmes climats, mais ils ont une joie de vivre, d'être dehors. Enfin, c'est leur milieu, ils n'ont pas envie de travailler à l'intérieur. Alors ça, c'est déjà très important parce que nous en France, on a un peu de mal à trouver des gens qui aiment ça, travailler dehors. Et puis après, j'ai eu des anecdotes assez marrantes. Été 2019, l'été passé, canicule importante, vous l'avez tous remarqué, donc difficulté de travailler dans les vignes. Hors de question pour Thierry Puzelin de sortir les tracteurs et de tasser les sols, donc on sort la pioche et voilà, les ouvriers de la maison, lui-même, on va à la pioche. Et Assad, donc le réfugié soudanais qui maintenant travaille chez lui puisqu'il vient de l'embaucher, eh ben il s'est révélé parce que c'était un piocheur extrême, c'est quelqu'un qui nous mettait 50 mètres dans le rang à chaque fois. Et il arrivait au bout du rang, tout heureux, et tout le monde l'applaudissait. Et il dit, c'est comme ça, progressivement, je me suis rendu compte que, mais bien évidemment que c'est facile de les intégrer. immigrés, bien évidemment que c'est facile de surtout de répondre à la demande.
Alors, c'est super aussi que ce ne soit pas que des saisonniers, que ça se transforme en un vrai travail.
Exactement. Ils sont embauchés, tous embauchés.
Alors, bien sûr. L'insertion professionnelle à la clé aussi.
Il y a des difficultés. Par exemple, Assad, en ce moment, ne travaille pas pendant un mois parce qu'il se consacre à son permis de conduire. Vous savez que dans les campagnes, si vous n'avez pas de permis, vous ne pouvez pas travailler. Donc, c'est aussi un problème aussi pour tous ces réfugiés. Donc, ça, c'était très positif. Par contre, un point un peu noir, c'est que j'ai cherché dans d'autres vignobles. Beaux vignobles. Bordeaux, Bourgogne. Et là, je cherche encore. Parce que j'ai pas vu beaucoup d'initiatives. Alors, je tiens à citer que au lycée agricole de Rodillan, dans le Gard, ça existe. Le centre de formation professionnelle agricole, c'est souvent par ce biais-là qu'on trouve ces formations de Venoy, dans l'Yonne aussi, fonctionne. Bon. Donc, ça manque un petit peu de structure de formation. Parce qu'il faut former. Ils sont très aptes et ils ont surtout beaucoup de qualités professionnelles à développer, mais il faut les former. Alors, ça me permet de faire un petit clin d'œil. Je vous ai évoqué Mont-Louis, je vous ai évoqué la Touraine.
Ah,
alors,
ça se finit toujours dans le verre avec
ça
vous.
Ça se finit toujours dans le verre. Alors, vous savez qu'à la fin du mois de janvier, tout début février, c'est la grande semaine des vins de Loire. On appelle ça maintenant les off de la Loire. Il y a plein de salons. La plupart sont professionnels, mais même les amateurs peuvent traîner leur guêtre du côté d'Angers ou Saumur. Donc, il y a le salon de vin de Loire. La fameuse dive bouteille de notre ami Sylvie Augereau.
On salue.
Voilà, donc le vin de Loire va être vraiment le vin de ces débuts d'année. Alors je vous ai amené une nouveauté. Ce sont deux jeunes qui s'appellent Anthony Rassin et Coralie Warnier qui ont repris un vieux domaine, ça s'appelait le domaine de l'étang, et c'est à Mont-Louis, et c'est du Touraine, et ça s'appelle les pierres écrites. J'ai trouvé ça très joli comme définition, ça raconte un peu aussi notre histoire, les pierres écrites. Voilà, on écrit à travers la terre notre histoire, qui est surtout brassée, hein. Je me rappelle, moi, mon grand-père était italien, entouré de Polonais, il travaillait dans les champs, et aujourd'hui, voilà, le petit Gerbel, il est sur France Inter. Les pierres écrites, la cuvée s'appelle le petit boulet. Goûtez, c'est très très fin, très délicat. C'est un chenin pur, sec, comme on en a envie, après une longue discussion autour
c'est très bien,
de l'intégration.
Hein. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde a trempé un peu ses lèvres.
Cheers, c'est délicieux.
Elvira, je pense que ça est un peu ton
ça
modèle.
Ça me plaît, c'est un peu, oui. C'est un peu ce que j'aime, ça.
Avec une finale saline. Non, franchement, c'est très bien. On va se retrouver dans un instant pour une super recette signée Vanessa Krisev, à la tête de la table du réchaud, qui est en tout cas à l'origine de ce très beau projet parisien. Quel est le nom de cette recette d'origine syrienne?
Alors, c'est là aussi, on peut parler du twist des cultures, de la fusion des cultures. C'est un keshke, mais qui est un peu retravaillé à notre sauce avec de la bergamote confite, avec des pickles d'oignons rouges.
Et c'est délicieux. Keshke, définition du keshke. On peut simplement dire qu'il est question de boulgour ou blé concassé. Elvira Opine du chef, elle en fait tous les jours chez elle, je crois.
Moi, j'adore.
Ouais. C'est une recette absolument extraordinaire. Un petit tour de main facile à faire. On se retrouve pour cette recette après un petit détour par la Guinée. Sewa. Avec le Guinea Music All Stars.
Yele ma borera, ibere ma borera, nanana ya bu. Hina ma borera, isewa ki borera, nanana ya bu.
Dinner. kele musoma meni Mwesa muluma meni Anabaya mufama meni Feu Bayi befane wama tofane yama Bokata la ginera yamba La joie et l'harmonie, c'est moi comme si c'était ta dernière fois.
Anisawa, Anisawa, Kayele Nama, Anisawa, Anisawa, Kadon Kelendi, Anisawa, Anisawa, Ayantolo Nyonfe, Asiwa Nyorona, Ibaki para Femena. Isabelo para ora, sewalo, sewale a visa, ajuyari. Bene a visa, bene maliani. Julari e jularu, que la todo mi alero, sewa. No quiera jamana mi do. Oye, que ira e. Fonsemeri e para mi na tirola. Coca hakili no mando. No quiera sewa ni tolo ni piate. Podi bene no mfa.
On va déguster sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Marine Mandrila, cofondatrice avec son compagnon du Refugee Food Festival et de la Résidence, un restaurant à Paris dans l'Halle Ground Control. Et nous sommes également avec Vanessa Krisev, fondatrice du Réchaud et de la Table du Réchaud. Également une très belle aventure parisienne. Mais pas seulement, on va voir que la cuisine est un outil d'intégration, voire d'insertion professionnelle grâce à vos projets solidaires.
France Inter. François-Régis Gaudry. On va déguster.
On a beaucoup de réactions sur notre mail et sur l'appli mobile de France Inter, Elvira.
Oui, on a notamment un auditeur ou une auditrice, Dominique Legros à Aix, qui signale qu'à Marseille, il y a un formidable restaurant qui a été ouvert par une réfugiée syrienne. C'est plein tous les jours, c'est boulevard national dans le premier, ça s'appelle Achouria, qui est l'ancien nom de la Syrie.
Mais on va aller essayer, on est souvent à Marseille, ça nous avait échappé.
Exactement. Et autre chose, Philippe Babaudou nous parle d'une association qui aide les réfugiés à découvrir le maraîchage. Ça s'appelle La Terre en Partage, laterreenpartage.org, je crois que vous connaissez les filles.
C'est formidable, c'est des copains qui ont fait
Vanessa
aussi un
truc. Ouais.
Et donc eux, ils ont monté un projet pour les personnes qui, dans le laps de temps où ils ont demandé l'asile et ils vont obtenir leur papier, donc c'est 9 mois en fait où on ne peut rien faire, et ils les hébergent, ils les accompagnent un peu à la manière d'Emmaüs, donc c'est une communauté, ils sont défrayés, ils sont logés, nourris, ils apprennent le maraîchage, ils créent un réseau, ils apprennent le français, et c'est superbe, et le lieu est superbe.
Formidable, Antoine Germain.
Oui, à propos du maraîchage, encore une fois, c'est des vrais savoir-faire. Les Soudanais, notamment, les Érythréens, savent très très bien faire les potagers. Et encore une fois, en Maine-et-Loire, il y a une plateforme là qui vient de se monter, j'ai découvert. 150 réfugiés par an vont être formés, alors principalement, effectivement, pour les potagers, pour travailler auprès des producteurs de légumes.
Très intéressant, Elvira.
Un dernier mail de Aïda Soumaoro qui nous écrit qu'elle est très émue d'écouter l'émission d'aujourd'hui. Je suis métisse d'origine malienne et depuis quelques années, je travaille chez Racine, qui est une société qui distribue des produits alimentaires à destination de la diaspora africaine en Europe. Ce qui nous anime, c'est de permettre à chaque déraciné, voulu ou non, de maintenir le lien culturel culinaire avec son pays d'origine. Au-delà de la solidarité, il y a une dimension économique qui peut être une vraie source d'intégration. L'intégration ne veut pas forcément dire l'acculturation. La cuisine est un vecteur d'intégration, mais tout en gardant son expertise et en valorisant sa culture d'origine.
Et petit cocorico au passage, malgré toutes les polémiques que l'on peut entendre évidemment sur la question des migrants, ça a bataillé dans tous les coins. La France aurait presque un record du monde de la solidarité.
Absolument, enfin, il y a énormément de bénévoles en France. de gens qui s'investissent dans toutes les régions, en zone rurale, dans les moyennes villes, etc., auprès d'associations, alors qu'ils viennent en aide aux réfugiés, mais d'autres causes aussi qui tiennent à cœur. Et c'est important, nous on reçoit énormément de mails de personnes qui veulent s'engager, venir au Refugee Food Festival. Regardez aussi sur internet, à côté de chez vous, il y a forcément des associations qui font un boulot incroyable sur le terrain, donc faut pas hésiter à s'engager, il y a plein de manières de s'engager.
Et précisons que le Refugee Food Festival n'est pas qu'un projet parisien.
Absolument,
il y a des antennes.
Le projet est né à Paris en 2016, mais s'est développé dans 7 villes, à Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Rennes et bientôt à Nantes et Dijon. Et dans chacune de ces villes, il y a aussi des personnes qui ont ouvert des restaurants, des services traiteurs, notamment à Lyon et à Lille. Je pense à Bassem Ataya qui va aussi ouvrir son propre restaurant à Lille en mai prochain. Et sur notre site internet, il y a sur la page traiteur hors de Paris, sont référencées toutes les pages des différents cuisiniers qui ont lancé leur service traiteur dans les différentes villes.
Et Elvira a oublié son chouchou d'ailleurs.
Son chouchou, Nabil Attar, qui est passé par le Refugee Food Festival et qui a son restaurant à Orléans qui s'appelle Narenj, qui veut dire oranger amer en syrien. Un restaurant absolument génial et je crois, Marine, qu'il a un nouveau projet.
Il y a une petite actualité, il vient de lancer Narenj To Go.
Et en plus, c'est délicieux, paraît-il.
Suite à sa collaboration avec Grégory Marchand au Frenchy, qui l'a inspiré.
Alors, Frenchy, on parle d'un restaurant à Paris, plutôt dans la catégorie des restaurants branchés. Grégory Marchand, évidemment.
Qui avait accueilli Nabil Attar dans le cadre du Refugee Food Festival. Et du coup, Narenj To Go, cuisine syrienne à emporter, street food, rue de Bourgogne à Orléans.
Merci beaucoup Marine Mandrila. Vanessa, la table du réchaud à Paris, c'est finalement votre première incursion parisienne. Ça s'est passé il y a quelques mois. Et ça s'est surtout passé dans le cadre d'un centre d'hébergement ouvert, avec aussi là les polémiques que vous pouvez imaginer, mais à l'époque ça fait un peu de bruit dans le quartier, ouvert en plein cœur du 16e arrondissement, on n'est pas très loin de la maison de la radio, dans le quartier Exelmans, quartier réputé
bourgeois quoi.
Assez huppé, on va le dire comme ça. Au départ ça a frictionné, et contre toute attente, ça s'est très bien passé.
Oui, en fait si on revient juste rapidement sur le projet, au départ c'est un projet itinérant, c'est un projet qui souhaitait aller voir et qui va voir dans d'autres pays d'Europe, cette gestion, comment les pays gèrent la crise de l'accueil. Et donc, on a été beaucoup dans le Nord, forcément, territoire très touché, et donc à Arras, Grande-Synthe, la Belgique. Et puis, là, c'est la première fois que l'opportunité s'est posée à nous de poser nos valises dans le cœur du 16e. Ce qui était très intéressant, c'est que c'est un quartier qui, historiquement, est un quartier qui connaît peu de mixité et qui, forcément, est inquiet vis-à-vis de cette... peut-être inquiet vis-à-vis de cet accueil. C'est dans une ancienne caserne de gendarmes qu'a ouvert les Cinq Toits. Centre d'accueil d'hébergement d'urgence. Il y a 350 personnes qui y vivent de toutes origines et un lieu qui se voulait être épicentre du vivre ensemble à la manière des grands voisins, puisque ce sont les mêmes associations qui sont derrière, donc Aurore, Plateau Urbain, Yes We Camp. Et ils nous ont proposé d'ouvrir ce restaurant qui est un peu plus qu'un restaurant, qui est un lieu qui devait tisser le lien et ouvrir les portes en fait de la caserne. Et là on se rend compte à nouveau que quand des portes sont fermées, donc les portes d'une caserne fermée, c'est comme des frontières, c'est comme des murs, c'est la porte ouverte à tous les fantasmes. Et à partir du jour où les portes de cette caserne sont ouvertes, ça s'est fait assez naturellement, mais comme on le voit partout. On disait tout à l'heure, en France on est à peu près un Français sur deux à faire partie d'une association, à être bénévole pour une association, ce
énorme.
Qui est énorme. Ce qui est énorme.
Et même, il n'y a pas d'ostracisation à l'égard de l'arrondissement du 16e, enfin du 16e arrondissement, mais même dans le 16e, les habitants,
comme
les
partout.
Riverains vous ont prêté main forte rapidement.
Oui, et alors on va appeler ça la conquête du territoire. Il faut convaincre, il faut montrer, il faut démontrer, il faut rassurer. Il faut rassurer parce que on a peur de l'étranger. C'est de tout temps et de, enfin, c'est dans notre premier réflexe de survie. Mais on l'a vu partout, aussi bien quand on va au fin fond de la campagne flamande où on s'attend à tomber sur des personnes plutôt réticentes. Partout, les gens sont globalement bienveillants, solidaires, accueillants, ouverts, et c'est pas l'image que véhiculent les médias.
Et accessoirement, les gens du 16e, mais les gourmets aussi de bien plus loin, viennent s'attabler à la table du réchaud, parce que ce n'est pas la table ou la cantine, le réfectoire en quelque sorte de ce centre d'hébergement, c'est un restaurant à part entière, géré par des réfugiés, femmes le plus souvent.
Alors pas tout à fait, en fait on a une chef qui est formatrice.
Oui.
on a 7 personnes en insertion qui apprennent la cuisine. Et qui apprennent la cuisine avec un principe de base qui est il n'y a pas de social sans écologie. Donc toute la cuisine du réchaud depuis son origine est une cuisine qui est extrêmement engagée sur le produit, sur les paysans qui le font. En fait, c'est une histoire d'humain. Cette cohérence, en fait, autour de l'humain se joue à tous les niveaux dans l'assiette. On le disait tout à l'heure, l'assiette, c'est un support aussi politique, social, écologique. On a un impact quand on cuisine et chaque choix qu'on fait en tant que restaurateur, quand on met dans un produit dans une assiette, c'est un choix qui compte pour l'histoire du monde et de la planète.
Vous nous avez apporté d'ailleurs un bouillon qu'on pourrait qualifier un bouillon de poubelle.
Je l'ai appelé bouillon poubelle, mais c'est plutôt un bouillon parure, on va dire. Bah, j'ai cuisiné ce gâteau avec de la courge. Il y a des parures de courge qu'on peut faire sécher et utiliser en infusion. La bergamote qui a servi dans le confit de bergamote qu'il y a sur le kechke, c'est pareil, les parures, ça part en séchage et ça sert ensuite. Les feuilles de menthe qui sont éventuellement un peu abîmées, pareil, en infusion. On peut faire des infusions de plein de choses, y rajouter quelques épices, un peu de jus de citron, un peu de jus de gingembre et
c'est un petit peu de miel.
Et du miel.
Le kechke, dans un instant, la recette, on vous l'avait promise, mais tout de suite, ce sont les pickles d'Elvira Masson.
On va déguster sur France Inter.
Elvira, ça va pickeliser aujourd'hui ?
Ça pickelise, oui. C'est une histoire géniale qui nous est racontée dans le New York Times du 6 janvier dernier.
Ouais.
Celle de Usha Prabhakaran, une ancienne avocate indienne qui vit à Chennai en Inde et qui a aujourd'hui 64 ans. Il y a un peu plus de 20 ans, par passion, elle a publié ce qui est le fruit de 10 ans de recherche, un projet un peu fou, la recension de toutes les recettes de pickles que l'on peut trouver en Inde. Ça s'appelle Usha's Pickle Digest. Au moment où elle bouclait son livre, elle a eu un grave problème de santé. Et la destinée éditoriale qui aurait dû être classique de cet ouvrage, c'est-à-dire maison d'édition, réseau de distribution classique, a été mise sur pause. Quand Usha Prabhakaran a été un peu rétablie, son projet a pris un chemin de traverse. Elle l'a auto-édité à 1000 exemplaires seulement, qui se sont écoulés par bouche à oreille, et le livre est devenu culte, mais un culte un peu confidentiel, un peu sous le manteau. Et ça a continué ainsi pendant 20 ans, Usha recevant des demandes par mail et envoyant à ceux qui le lui écrivaient le livre en pièces jointes, en PDF, gratuitement. Alors c'est devenu un livre de référence hyper populaire en Inde et au sein de la diaspora indienne. Aujourd'hui, on peut l'acheter en ligne, parfois. J'ai eu de la chance, je l'ai trouvé, il est très régulièrement épuisé puisqu'il est toujours auto-édité.
Alors
il ressemble à ça, ce livre.
Est-ce que je vais le recevoir avant l'émission? C'est bon, il est bien arrivé. Incroyable, un livre.
On dirait un manuel scolaire.
Joyeusement kitsch.
C'est ça. Mais ouvrez-le, on dirait un manuel scolaire anglo-saxon des années 70. Il y a beaucoup, beaucoup de texte, il n'y a pas une image, c'est touffu, c'est un travail de dingue, je n'en reviens pas de ce livre. Je ne m'imaginais pas que l'univers du pickle indien puisse être si riche. Alors, la tradition des pickles en Inde est millénaire, évidemment, comme toujours, elle a commencé par le besoin de conserver les aliments, en l'occurrence les légumes, au départ dans du sel, et au fil du temps, l'art du pickle est devenu plus complexe, plus riche, avec beaucoup de spécificités régionales. J'ouvre ici une petite parenthèse, car c'est la seule chose qui ne soit pas expliquée dans le livre. Par pickle, elle entend tout fruit ou légume conservé. C'est l'art du preserve, comme on dit en anglais, que l'on sous-divise habituellement en chutney, en relish et en pickles. Chutney quand c'est une base de fruits, relish quand c'est une base de légumes. Pickle un peu indifféremment, le terme s'applique plutôt à la méthode de conservation, soit par le sel, soit par la saumure. Alors Usha n'opère pas cette distinction, tout est pickle et tout y est. Alors on part de l'art de choisir les épices, le fruit, le légume, en passant par les vertus curatives des produits. Il y a un nombre de glossaires incalculables dans le livre, les traductions de l'anglais à l'hindi, au tamil, au télégou, au malayalam, au bengali, les noms botaniques, des explications au sein de chaque recette, des raisons pour lesquelles on procède de telle ou telle manière. Le chapitrage est assez génial. Il y a les recettes classiques. Alors, classique, c'est écrit à la française, QE, les exclusives, les anti-waste, anti-gaspillage. Donc, ça rejoint vos pickles aussi, à vous, Vanessa. J'ai pas été téméraire, j'ai choisi une recette classique. C'est le sweet and sour.
Je l'ai déjà goûté. Oh là là, quel
attention,
pied.
Ça arrache. Hein.
Ah non, pas du tout. Quel pied. C'est aigre-doux avec une petite pointe de vinaigre.
C'est sweet and sour cauliflower, donc chou-fleur aigre-doux. Alors un pickle qui, contrairement à beaucoup de recettes du livre, ne demande pas 2 mois de repos avant d'être dégusté. Alors c'est juste des fleurettes de chou-fleur blanchies et cuites rapidement avec un mélange de graines de moutarde chauffées à l'huile, du tamarin frais mixé avec un petit peu d'eau tiède, du sel, du piment de chili, du curcuma en poudre, des graines de fenugrec, de la poudre d'asafoetida qui porte bien son nom.
Asafoetida.
C'est un truc, ça se garde 2 mois. C'est le mélange d'épices et de sel qui sert de conservateur, pas de saumure évidemment, et j'adore. Et je finis, quand la journaliste du New York Times lui demande pourquoi elle n'a pas au fil du temps cherché à finir par le faire publier par une grande maison, Usha Prabhakaran répond ceci: Je ne connais rien à l'édition. Vendre beaucoup de livres n'a jamais été mon but. Mais je crains que les savoirs disparaissent. Ma seule mission est de maintenir le passé bien vivant.
Pour les monomaniaques du Pickles.
La grande classe.
Ah ouais.
Elvira, tu te charges de la traduction en
bien
français.
Sûr, 1000 recettes de Pickles.
Mais incroyable. Vous pouvez vous contenter de la super recette qui fait son effet. C'est bon, hein, Marie.
C'est incroyable.
C'est souffle cauliflower.
C'est
sweet and sour.
Sweet and sour.
Le principe, on arrive au terme de cette émission, Vanessa Crissave, mais vous nous avez apporté un keshke qu'on va déguster justement juste après l'émission. Le principe du keshke, c'est donc du boulgour qui est...
qui gonfle simplement dans un produit laitier, ça peut être du yaourt à la grecque, même un yaourt de chèvre, et qu'on assaisonne avec de la menthe, avec des noix et avec de l'échalote.
Aucune cuisson.
Qu'est-ce que c'est bon.
Donc du boulgour fin.
Voilà, plutôt. Et du boulgour
fin
plutôt.
J'ai pris du gros.
Du gros, et ça marche aussi. La recette est en ligne sur franceinter.fr à la page On va déguster, comme d'ailleurs les initiatives des unes et des autres. Une petite annonce à faire passer, Vanessa Crissave.
Une petite annonce, on cherche un ou une chef pour le restaurant.
Oui, et là, un chef formateur.
Un chef formateur rémunéré
comme tout le monde.
À fait, et qui aime transmettre et qui aime le produit.
Tout pour cette candidature, les renseignements sur franceinter.fr à la page On va déguster. Merci beaucoup Marine Mandrila et longue vie à Refugee Food Festival et à la résidence restaurant dans lequel on peut se rendre à Ground Control. Samedi prochain à 11h, attention, une émission totalement pourrie. Oui, et si le putrifié, le fermenté, le faisandé avait bon goût et voulait du bien à notre santé, on en parle avec le scientifique Christophe Lavelle et Marie-Claire Frédéric, spécialiste de la fermentation. À samedi prochain si vous avez encore faim.